Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de l'émission Derrière l'image, une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Pour cette seconde partie, je suis Pierre Pageot et je suis en compagnie de Robert Daudelin.
Bonjour, Pierre.
Bonjour, Robert. Bonjour, Pierre. Et notre invité, Marcel Jean.
Bonjour, Pierre. Bonjour, Robert.
C'est le directeur.
Rappelez-moi
ton titre, là.
Directeur général de la Cinémathèque québécoise, qui est un poste, qui est un titre qu'a déjà porté
Monsieur notre ami Robert. Oui, bien sûr. Et qui était un peu... comment ça va, là? Ça fait quelques années, là, maintenant, Marcel?
Ça fait 4 ans et demi, maintenant.
4 ans et demi, déjà?
Donc, oui. Puis bon, moi, je suis très content. C'est un poste naturel au sens où j'ai toujours été très proche de la Cinémathèque. J'avais travaillé dans les années 90, à l'époque où Robert était là. J'ai toujours eu beaucoup de passion pour l'histoire du cinéma, pour la pédagogie, pour le partage de la cinéphilie. Donc, pour moi, c'est un peu naturel d'être là et je suis très confortable dans ce poste-là. Et je travaille avec une équipe de gens absolument phénoménale. On a à la fois...
Des traditions, alors.
Non, mais c'est une équipe qui s'est renouvelée.
C'est une équipe qui s'est beaucoup renouvelée.
Dans l'ancien temps, tu sais, il y avait le Triumvera qui était assez...
Les deux Pierre, Véronneau, Jutera et de Daudelin.
C'est là, ces trois-là, je pense qu'ils couchaient à la Cinémathèque. Mais ils étaient... indestructible.
Ce qui est intéressant dans ce renouvellement, c'est que c'est un renouvellement qui correspond aussi à un renouvellement de la cinéphilie ou de l'approche qu'on peut avoir à 30 ans du cinéma. Oui. Parce que c'est pas la même chose. On ne voit plus le cinéma de la même façon, on n'en parle plus de la même façon. Puis on l'analyse ou on y travaille avec des outils que les gens de ma génération n'avaient absolument pas.
Oui. En fait, ça revient, je me souviens d'une conversation qu'on a déjà eue, Robert, toi et moi, à la fin des années 90, juste avant ton départ de la Cinémathèque, où tu disais, il y a un changement technologique, un changement des pratiques qui s'amorce et qui s'annonce. Et... Je ne suis pas l'homme qui changement-là. Il faudra une nouvelle génération, donc, d'archivistes, d'administrateurs de cinémathèques et tout. Et ce que j'aime actuellement de ce qui se passe à la Cinémathèque, c'est qu'il y a une forme de fluidité dans le passage, dans la transmission. Le fait que moi, je suis arrivé, j'avais touché à cette équipe d'origine dont on vient de parler, mais il y a encore des gens qui ont appartenu à cette équipe-là. Je pense à Marco Deblois, exemple.
Marco, c'est vrai.
Le conservateur d'animation qui est quelqu'un qui a une réputation internationale.
Marco, quand il est arrivé, lui, c'était la relève, et maintenant, c'est l'aîné dans l'équipe.
C'est lui qui transmet.
Et ça, c'est intéressant, ce mouvement-là.
Et des gens qui ont quitté depuis, je pense à Alain Gauthier. Cet été, deux personnes majeures, Lorraine Leblanc, qui a marqué l'histoire de la médiathèque du Centre de documentation, et Serge Desaulniers, qui a été un projectionniste et qui ensuite a été celui qui prenait soin de la collection film au jour le jour, c'est-à-dire qu'il s'occupait de la technique aux réserves de Boucherville, donc il inspectait les copies et tout. Ces gens-là ont quitté cet été... remplacés par des personnes qui arrivent avec un autre type de formation, une autre expérience, mais qui sont dans la pure continuité. Alors, il y a un renouvellement qui se fait, mais de manière assez fluide, je trouve.
Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui se transcrit dans le programme tout chaud qu'on a devant nous?
Je pense que oui. Ça paraît dans le programme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui ont...
Un exemple?
Un exemple qui a changé radicalement, c'est juste la question de l'accès au film, par exemple. À l'époque de Robert, les projections se faisaient sur support film, donc majoritairement en 35 mm, mais aussi quand même assez largement en 16 mm. Et l'accès au copies 35 mm était rendu possible par le fait que il y avait beaucoup de collaborations. C'était une époque où la diplomatie, les ambassades, les consulats étaient extrêmement dynamiques et contribuaient à, par exemple, payer le transport des copies et tout ça. Les budgets de transport de copies aujourd'hui...
Ça n'existe plus.
Cette aide-là n'existe plus. Ouais. Et deux, les budgets, le coût du transport des copies sont faramineux. Ah, On le sait, le transport, la poste et tout, il n'y a plus de volume. Alors, comme il n'y a plus de volume, chaque chose que tu dois faire transporter coûte très cher. Une copie 35 mm, faire venir de France et la renvoyer en France, on avoisine les 3 000 $ actuellement.
Oh boy.
Alors, on s'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur une base courante. On le fait. Mais on le fait quand il s'agit de faire venir Molière d'Ariane Mnouchkine, parce que c'est l'événement, puis dans ce cas-là, c'est plus que 3 000 $ parce que le film dure 4 heures. Alors,
c'est vrai.
Et ça marche au poids, ces choses-là. Mais on le fait pour des événements, mais on ne peut pas le faire sans avoir une véritable réflexion. Arrive toute la question de la restauration des films et des versions numérisées. Et cet accès-là, qui est beaucoup plus facile parce que la question de transport se pose moins. C'est un disque dur que tu fais venir, donc ça n'a pas le même poids. Et les décisions qu'on a à prendre. Cet été, on a présenté « To be or not to be » d'Ernst Lubitsch.
Oui.
Et on s'est retrouvé face au choix de projeter une 16 mm ou encore une version numérique restaurée. Si tu projettes une 16 mm qui est un peu fatiguée, parce que la copie date d'un certain moment, on sait que c'est de la comédie sophistiquée, avec des dialogues d'une rapidité et tout.
Oui.
On a comparé la 16 et la version numérique pour faire le choix, finalement, de projeter la version numérique, dans la mesure où on trouvait qu'avec l'esthétique de Lubitsch et le rythme et tout ça...
Il était mieux servi par ça.
Oui. À l'inverse, on a présenté La Chèvre de Francis Weber, où on avait là, le choix entre une version numérique puis une 35 qui avait roulé. C'est un film qui a été un succès.
Oui, c'est un succès. Oui.
On a regardé les deux, puis on a trouvé que même si la 35 était
un peu fatiguée,
à cause qu'on y avait du grain, qu'il y avait cette espèce de côté... ça servait mieux le film.
Ça servait.
Et on passe beaucoup de temps maintenant à comparer, en fait, pour décider.
Du coup, tu m'amènes... J'ai une colle pour toi.
Oui.
Dans le cycle Truffaut-Hitchcock, vous présentez Shadow of a Doubt, qui est mon Hitchcock préféré. Tout de suite, je suis allé au programme et je vois que ça dit numérique, N-U-M.
Oui.
Ça veut dire quoi dans ce cas-ci?
Dans ce cas-là... Quand on écrit DCP, c'est qu'on a la garantie qu'on a DCP.
Je comprends.
Quand on écrit NUM, c'est qu'on n'a pas la garantie qu'on va être capable de nous livrer un DCP et qu'il se pourrait qu'on nous livre un Blu-ray à ce moment-là.
Ah, OK.
Mais là, ça relance le débat pour moi, carrément. Parce que, est-ce que c'est le rôle des cinémathèques de projeter des Blu-ray? J'adore ça, les Blu-ray. J'en ai beaucoup chez moi. Mais quand je vais à la cinémathèque, un film comme Shadow of a Doubt, compte tenu de son esthétique, des partis pris du travail sur le noir et blanc d'Hitchcock dans ce film-là, je m'attends, comme cinéphile peut-être un peu pointu ou maladif ou obsessif, de voir un 35 mm noir et blanc sur l'écran d'une cinémathèque.
Nous, on n'a pas été capable de trouver un 35 mm dans ce cas-là. Alors... On a un distributeur qui nous dit on peut vous fournir une version numérique. Dans ce cas-là, faut pas oublier qu'on publie les programmes longtemps à l'avance.
C'est
que souvent, au moment où on publie le programme, moi, je ne vais pas écrire des CP si je ne suis pas sûr que j'ai un DCP. C'est plutôt l'attitude qu'on a. C'est qu'on va prendre une terminologie plus large si on n'est pas absolument certain.
Donc, NUM, c'est ça que ça veut dire.
Quand le distributeur nous dit... c'est sûr que je peux te livrer un Blu-ray, un DCP, je ne suis pas sûr. Si on décide de le projeter, on va écrire NUM. NUM, ça peut aussi vouloir dire, mais on ne ferait pas ça avec Shadow of a Doubt, mais dans le cas de certaines productions qui ont été faites pour la télévision, ça peut aussi vouloir dire une bêta-cam numérique. Par exemple, une digibeta ou des formats de cet ordre-là, des formats numériques. Ça peut aussi vouloir dire des fichiers numériques dans le cas de la production vidéo, par exemple, ça va être des fichiers numériques. Donc, ça peut aussi... C'est une terminologie qui est plus large. C'est sûr que on est... On prend soin d'indiquer les supports précisément pour la raison que tu dis là et pour ne pas faire de fausses représentations. On dit aux gens, venez à la Cinémathèque, vous allez voir des films en 35 mm. Puis cet été, l'été dernier, la plupart des films, le cycle comédie, c'est un cycle qui s'est déroulé, je pense, à 85% en 35 mm. Et d'ailleurs, à un tel point que ça en devenait presque problématique, il y a un moment où, parce qu'il faut monter les... préparer les copies, on sait... Et donc, quand tu es à 2-3 projections par jour en 35 mm, il y a un moment où on n'avait plus de bobine, plus d'espace, plus rien, parce que la cabine était pleine de copies préparées. Alors, on va dans cette direction-là. Dans le cas des Hitchcock, la plupart des films, c'est les versions restaurées donc, qu'on a eues, puis c'est des DCP, là. C'est plutôt dans cette direction-là. On a quelques... Je vois pas
enfoncer le clou, mais Vertigo, par exemple, la restauration de Vertigo, qui est unanimement considérée comme scandaleuse, on est pris avec. Hein. Il n'y a plus moyen de voir Vertigo, le vrai Vertigo d'Hitchcock. Qui est-ce qui peut encore le voir, là?
Faut que tu la possèdes, la copie. Si tu ne l'as pas...
Il n'y a pas d'autre choix.
Parce que ceux qui l'ont,
ils ne veulent plus
la prêter parce qu'ils savent qu'ils n'en auront plus d'autres.
Oui.
C'est ce qui arrive. Je veux dire, quand tu as une copie qui est très, très rare, nous, on a une copie...
Qu'est-ce qui a été scrappé un peu? Moi, j'ai vu le film au moment de sa sortie.
Vertigo? Ils l'ont restauré, ils ont modifié la densité des couleurs, puis ils ont remixé en surround, qui est complètement...
Mais surtout les couleurs.
À l'opposé des parties prises d'Hitchcock.
Parce que les couleurs, t'as raison, et voyons donc, c'est un film majestueux de travail de...
Mais ce qui a fait le plus de bruit, c'est la question sonore.
Il y a un truc absolument fou, la fin extraordinaire sous le pont. T'as des goélands derrière la salle dans la version actuelle. T'imagines mal, Hitchcock meubler son plan avec des goélands.
Non. Alors, et ça, c'est sûr que c'est là où on arrive en plein front avec... on reçoit en plein front le fait que le cinéma est un art technologique et qu'on est lié à cette technologie-là. Je donne un exemple qui est puisé en grand cinéma populaire, mais qui va parler à tout le monde. Il n'y a plus personne qui peut projeter Star Wars tel qu'on l'a vu en 16-17. Star Wars n'existe plus parce que Lucas l'a repris. Il a changé les effets spéciaux, il a amélioré les affaires de son point de vue. Et le film de 77 n'existe plus, à moins que quelqu'un ait gardé une copie dans son
VHS. Non,
mais ça, c'est un débat. On pourrait passer une heure à s'échanger des exemples. Parce que et les cinémathèques, moi, je trouve ça très stimulant, mais néanmoins un peu douloureux. On se retrouve à un moment de passage. On ne sait pas très bien dans 10 ans qu'est-ce qu'on va... Le mot cinéma va couvrir quoi dans 10 ans? C'est très risqué d'essayer de répondre à une question semblable. On est pris dedans. Là.
C'est pour cette raison-là que, plutôt que de prendre des parties dogmatiques dans le débat, moi, je pense qu'il faut... être clair sur ce que nous faisons. C'est-à-dire, on dit quelle version de Vertigo on projette. Bon. Quelqu'un qui ne veut pas voir cette version-là peut ne pas la voir. Quelqu'un qui veut la voir, qui connaît l'autre, mais qui veut prendre connaissance de celle-là. Mais c'est sûr qu'il y a tout un jeune public. C'est pas la jeunesse que je mets en cause là, mais c'est le fait que de ne pas avoir cet historique-là, tu ne te les poses pas, ces questions-là.
Mais ce qui est intéressant, tu sais, je pense que j'ai parlé de ça avec toi déjà, quand la programmatrice de Métrographe à New York est venue au rendez-vous il y a 2 ans, Elle disait qu'elle se bagarrait semaine après semaine avec les majors aux États-Unis pour avoir des 35 pour le Métrographe. Puis je lui dis, mais les spectateurs s'en aperçoivent. Elle dit, et comment? Il y a des gens jeunes qui nous téléphonent pour s'assurer que c'est bien en 35 qu'on va projeter tel film.
Mais c'est vrai ici aussi, Robert.
Moi, je suis pas ça.
Quand on projette en 35 un film qui a une portée un peu culte, souvent, il y a plus de jeunes qui viennent que le pourcentage de spectateurs. Et quand je leur parle, je leur dis, vous avez jamais vu ce film-là? Puis ils me disent, oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais vu en 35 mm. Alors, il y a toute une série de spectateurs qui ont une réelle conscience de ça. Puis moi, j'ai vécu toutes sortes d'expériences, notamment le fait d'avoir, au moment où il y a eu ce sorte de remake en animation de La Guerre des Tuques qui a été faite, je me suis dit, à la Cinémathèque, on va projeter La Guerre des Tuques, l'original, en 35 mm. Puis mon idée, c'était de dire, les parents qui vont amener leur enfant, ils les ont amenés voir la nouvelle version, pour leur dire, venez voir de c'était quoi l'original. Bon. Et ça a marché, il y avait plein de monde dans la salle. Sauf que, quand la projection a commencé, moi, je me suis mis à avoir peur, parce que je me suis dit, c'est bourré d'enfants dans la salle qui n'ont jamais vu un film en 35 minutes. Puis là, je le voyais, le grain. Puis là, je les voyais, les égratignures. Puis là, je voyais, puis je me suis dit, à un moment, ils vont dire, c'est quoi ça? Et, mais pas du tout.
Pas du tout, hein?
Pas du tout. Ils ont embarqué dans l'histoire comme les enfants de l'époque.
Je pense qu'on dirait que... Moi, j'ai assisté à des projections, je me souviens d'une copie de La Belle et la Bête et une copie des 400 coups. C'est deux cas, je me souviens. Et c'était des pas bonnes copies, guillemets, mais pas. Mais je me souviens, dans la salle, c'est comme... On va à la Cinémathèque et ceci fait partie de la possibilité qu'on soit confronté à une copie, scratchée.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un petit peu plus de mise en garde. Il faut dire aux gens ce qu'ils voient.
Moi,
j'y tiens. C'est-à-dire que quand on projette des copies qui ont commencé à virer ou quelque chose, qu'on fasse un avertissement.
Okay. Ça, c'est ce que tu viens de dire avant la projection,
On va le dire avant la projection.
Marcel, on t'amène sur le programme qu'on vient de découvrir parce qu'il y a plein de choses dedans. Hein. Il y a notamment... vous soulignez le fait qu'on a perdu beaucoup d'amis récemment. Hein?
Jean-Claude
Labrec,
Jean-Claude, le chauffeur
qui faisait tellement partie de l'histoire de la Cinémathèque. Non seulement il en a été le président, mais c'est un des premiers cinéastes qui s'est engagé dans l'aventure qu'était la Cinémathèque à ses débuts. Yolande Simard-Perrault, Jean Baudin. Puis là, vous soulignez le fait que Pierre Falardeau nous a quittés depuis 10 ans. Et là, c'est fait en rappelant les films importants auxquels ils ont été associés. Je pense que c'est aussi la fonction d'une cinémathèque de témoigner.
Le rôle de cinémathèque. C'est vous qui avez un devoir de mémoire. Sinon, c'est qui va vraiment rendre hommage à Jean-Claude Labrec?
Vous savez, il y avait une très, très belle salle pour Le Chant dans le sac
soir.
Et une très belle salle aussi pour Mariage de Catherine
Le
Martin,
même soir, en 9h.
Et ça, Mariage est l'exemple d'un film que tu dois voir sur grand écran.
Tu ne peux pas le voir. Catherine a eu le soin d'envoyer un mot à un certain nombre d'amis pour leur dire « Profitez de l'occasion.
» Parce que c'est un film qui trouve vraiment sa dimension sur le grand écran.
La forêt dans ce film-là, la nature.
Dans la chambre de la jeune femme. Comment Jean-Claude a travaillé sur la lumière beaucoup plus qu'il ne le faisait traditionnellement, je trouve. On dirait que c'était ça le défi qu'il avait accepté par rapport à ce film-là.
Catherine l'a amené à quelque part, dans ce film-là. Dans le cas du Chat dans le sac, on était particulièrement contents parce que c'est un film, justement, qui est sur le web facilement trouvable. Il est sur le site de l'ONF. Mais là, il y a un buzz autour du film lié à l'édition de la musique de Coltrane.
Il y a le fait aussi que tout le monde oublie que ça a été tourné en 35. Absolument. Tout le monde pense que c'est un film 16. Ouais. Alors que le défi pour Labrec, encore une fois, ça a été de tourner ce sacré film-là avec la grosse Mitchell qui ont sorti de l'ONF.
Puis toutes les anecdotes de Jean. Je te coupe. Moi, je veux absolument... un des rôles de la Cinémathèque, c'est pour moi de restaurer, sauver, mémoire. Mais il y a une fonction qui s'est ajoutée. Je me souviens d'un gars d'Australie qui était venu à la Cinémathèque. C'est d'être un peu aussi une défense du cinéma d'auteur indépendant. Puis je veux vous parler du fait que, suite en particulier à la disparition, à la mort de l'excentriste, vous avez recueilli cette fonction-là. Et moi, je la trouve vraiment particulièrement importante. Regarde aujourd'hui la programmation, Soleil Noir, vous étiez, Robert, tantôt. Hein? Et donc, ça s'appelle défendre. Hein? Ça s'appelle... risqué peut-être même pour un cinéma d'auteur, documentaire d'auteur.
On a créé... Tu sais, c'est une entité indépendante qu'on a créée.
Oui, je sais.
Ça s'appelle le Centre d'art et essai de la Cinémathèque. Et pour sortir précisément des nouveautés, avec un mandat très clair, qui est une défense premièrement du documentaire québécois,
voilà,
du cinéma indépendant québécois, et ensuite du documentaire en général, oui, puis du cinéma d'animation et du cinéma étranger avec sous-titre français. Bon, c'est un peu tout ça, les cercles de priorité. Et c'est venu du fait que, bon, Excentrie se fermait, d'une part.
On manque d'écran à Montréal.
Et moi, c'est un peu comme Buster Keaton, pris avec deux problèmes en même temps, quand il est dans The General, avec un sur le devant la voie ferrée, avec un bout de bois sur lui, puis qui s'en sert pour prolonger la voie ferrée. Bon, c'est que tu as un problème, il en arrive un deuxième, tu sers du deuxième pour régler le premier. Quand Excentris a fermé, ça m'a permis, moi, de régler un problème à la Cinémathèque qui était que je trouvais que la santé économique de la Cinémathèque passait beaucoup par les locations de salles. Puis les locations de salles n'étaient pas en lien avec notre mission du tout. C'est-à-dire qu'on louait, par exemple, à des agents d'assurance pour des discours de motivation ou des trucs du genre.
Oui, aussi, on en parlait.
Et ça, du temps de Robert, ça existait peut-être un peu, mais ça avait pris plus de place.
Oui, oui, oui.
Et je me disais, il faut se recentrer sur le cinéma. Ce qu'Excentris a permis, la fermeture d'Excentris a permis, c'est de dire, de précipiter ça et de dire, bon, ben, servons-nous du fait qu'on a une salle qui est disponible et puis projetons des films-là et trouvons le moyen de les financer. Moi, la Cinémathèque, elle est ouverte, mon équipement est là, le personnel d'accueil est là en bas, donc mes coûts fixes n'étaient pas si élevés pour ajouter cette activité-là. Ça ne faisait pas partie du mandat de la Cinémathèque de sortir des nouveautés. Donc, il fallait avoir une autre entité avec un autre type d'économie, parce qu'on est en partage de recettes dans ces cas-là. Oui. Et en profiter pour permettre à du cinéma d'auteur d'être vu sur grand écran. Et c'est ce qui nous a amené à la programmation qu'on a actuellement. Et pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres salles qui ont ouvertes depuis... qui sont ouvertes depuis qu'on a fait ça, et que ça n'a pas eu un impact négatif. C'est-à-dire que le fait que le cinéma moderne existe et qu'il marche bien n'a pas eu d'impact sur le centre d'art et essai de la Cinémathèque. Notre troisième année d'activité, celle qui s'est terminée le 31 mars dernier, ça a été notre meilleure année d'activité des trois.
Mais il y a une circulation entre ces salles-là qui est intéressante, même le musée maintenant, qui est un peu excentré. Néanmoins, il commence à s'intégrer à cette large circulation en ville.
Ça me rappelle comment la publicité, hein? Tu rouvres le journal?
Oui.
Pas cette conjointe, vous entendez, mais c'est comme le...
Hein? Non, mais on s'entend pas avec les journaux là-dessus, mais bon, les journaux voient bien la logique, ils sont pas
bêtes. Oui, mais vous vous tirez pas d'un jambe
non
plus, c'est pas ça.
Non, on discute, on est en discussion. Bon, quand on a fait Lave Diaz, ça s'est fait en discussion entre la Cinémathèque et le cinéma moderne. Régulièrement, on discute avec le cinéma du parc, puis on dit, bon, ben tel film, sortez-le. En version anglaise, en version avec sous-titre anglais, puis nous, on va sortir la version française ou avec sous-titre français. Quand ça fait... Tu sais, on s'entend pour se partager selon notre position géographique. Puis parfois, on prend un film, puis le Beaubien va dire, bon, on vous le laisse parce qu'on pense que c'est plus dans vos cordes. Puis, et à l'inverse...
Oui, Beaubien, souvent, Mario m'a dit, il y a trop de films, il y a plus...
Tout le monde veut être au Beaubien, parce que c'est une salle qui est bien située, qui est associée, et Mario,
il souhaite aussi l'émergence d'autres écrans, parce qu'il dit là, à un moment donné...
Marcel, je veux pas... Je sais qu'un autre temps est à peu près fini.
Une minute, mais...
Mais j'avais une question. Oui. J'ai peut-être mal regardé le programme, mais je cherchais désespérément le cinéma muet que je n'ai pas trouvé.
Oui, tu as bien raison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, l'été, on arrête le cinéma muet.
Mais là, il y en avait
et
dans
cet
la
été,
série.
On en a mis tout l'été parce que à cause de la comédie, on se disait le burlesque, c'est la place. Alors, on prend une pause en septembre-octobre, puis on revient après.
Ça, c'est une de vos grandes missions. Puis ça, c'est toujours populaire.
Oui.
Hein?
Oui.
Moi, je me souviens...
Moi, ma dernière visite, je pense, c'était pour revoir encore une fois la terre de Dovzhenko.
Ah, c'est
avec
beau.
Une salle complète et enthousiaste. C'était une soirée formidable.
Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a renouvelé aussi, on a plusieurs pianistes.
Mais oui, maintenant. j'ai noté et,
ça.
Ah oui,
ça, c'est super, ouais, oui. Dont la Chantal Morin, qui est la première femme pianiste sur le cinéma muet à Montréal. Donc ça,
bravo.
C'est
très bien. Ben, donc, merci beaucoup, Marcel.
Nous étions
on continuera ça avec le prochain programme.
Bien sûr. Nous étions accompagnés de Marcel Jean, directeur général de la Cinémathèque québécoise, à l'animation Robert Daudelin, Pierre Pajot.
Et Pierre Pajot.
Oui.
Oui, oui. On t'a pas oublié aujourd'hui.
Non, ben ça, c'est pas bien grave. Et à la technique, Maxime.